Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Nous sommes mercredi 13 octobre 2021. Mesdames et messieurs, chers auditrices, auditeurs de la radio Nzamba, Agathe Kakawe, bienvenue dans ce jour-là. Donc voici d'abord les principaux titres. Justice pour la famille Christophe Ngezawahizi, c'est ce que réclament les proches de ce journaliste caméraman de la radio-télévision nationale du Burundi, tué avec toute sa famille le 13 octobre 2015. 6 ans après ce massacre, les bourreaux n'ont toujours pas été identifiés. Commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Lwagasore, héros de l'indépendance. Une enquête menée par Ludo de Witt, l'historien et écrivain belge, révèle que la Belgique était impliquée dans cet assassinat. Une personne a été tuée, des biens ont été volés par des individus non encore identifiés. Cela s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi en commune Boubanza, au nord-ouest du pays. Voilà pour le sommaire, à la présentation Alexandre Nungeko. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Nous sommes le 13 octobre. Le Burundi commémore le 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Lwagasore. Les cérémonies marquant cette journée ont été haussées par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye à Bujumbura. Ils ont débuté par une messe en mémoire de Lwagasore à la cathédrale Regina Mundi, puis un moment de recueillement et dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du héros de l'indépendance, toujours à Bujumbura. Cette commémoration a également eu lieu dans toutes les provinces du Burundi. Dans la province Kayanza, le gouverneur Rémi Tshishahayo en a profité pour annoncer que les personnes qui n'ont pas respecté la mesure de détruire les constructions érigées à moins de 6 mètres des routes nationales seront frappées d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs burundais à partir de demain. Les idéaux de paix, d'unité nationale et de cohésion sociale prônés par le héros de l'indépendance sont constamment foulés aux pieds aujourd'hui. C'est le constat de Charles Mukasi, l'ancien président du parti UPRONA, ancien parti unique à l'occasion de cet anniversaire de l'assassinat du prince Louis Lwagasore. Charles Mukasi nourrit toutefois l'espoir que les générations à venir pourront renverser la tendance pour faire respecter l'héritage du prince Louis Lwagasore. On l'écoute.
Il y a 60 ans, un leader avait gagné les élections et avait dit qu'il souhaitait une démocratie comme les Burundais et la Suède, pas celle de la colonisation, celle que les Burundais avaient évitée en votant pour l'UPRONA. Nous avons encore des obstacles de propagande. Aujourd'hui, ce que Lwagasore voulait que le Burundi évite, c'est-à-dire la partition du Burundi en Hutu et en Tutsi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, c'est ce qui est en train de se passer après le génocide, évidemment. Et sans que nul ne regrette le génocide, nul ne le condamne et ne dise plus jamais ça. Parce que vous ne pouvez pas faire plus jamais ça en consolidant les organisations génocidaires dans les institutions. Donc, ce n'était pas la peine de combattre l'apartheid si c'était pour en arriver à ce que nous avons aujourd'hui au Burundi. Donc, et nous avons cet espoir, je le sens, dans les milieux de la jeune génération qui souhaite absolument que les choses aillent mieux. Ce qui veut dire que ce qui est là n'est pas bon. En avant-marche, on y va pour ce qui est meilleur, puisque la honte est déjà là. Donc on souhaite que les choses s'améliorent après le déluge, le beau temps, puisque autour de nous, je le vois, je l'entends, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger et qui souhaite que le Burundi aille mieux.
La responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Lwagasore est évidente. C'est ce qu'affirme l'historien écrivain belge Ludo de Witt. Il vient de publier un livre sur les conclusions de ses enquêtes menées pendant plusieurs années sur cet assassinat. Ludo de Witt appelle la Belgique à reconnaître ses torts et les conséquences qui en découlent. Ludo de Witt s'exprimait sur la radio française RFI.
l'enquête de cet assassinat était aux mains de la tutelle, donc du colonisateur. Parce qu'en fait, Rwagasore a été assassiné une dizaine de mois avant l'indépendance du pays. Et pendant toute cette enquête, le rôle de la Belgique a été escamoté. Et donc, moi j'ai pu étudier le dossier répressif de la tutelle pour la première fois, et il y a des indications extrêmement concrètes et graves sur le rôle de la Belgique. Et c'est grâce à une enquête qui est restée secrète, et c'était une enquête parallèle qui a été faite à Bruxelles, en Belgique même, qui était spécifiquement orientée sur la question quel était le rôle de la Belgique dans cet assassinat. Il est maintenant tout à fait clair qu'il y avait eu trois réunions du cadre colonial au Burundi dans les jours qui ont suivi les élections qui ont été gagnées par Rwagasore, et sur ces réunions, la conclusion a été qu'on allait mettre en route un plan pour assassiner Rwagasore. Finalement, cet assassinat a été fait d'une façon tellement amateuristique. Il y avait eu des témoins qui ont vu le fait que la voiture de l'opposition politique était sur le lieu d'élite, etc. Tout ça a donc en quelque sorte forcé le colonisateur donc d'arrêter l'assassin et très vite après les autres comploteurs. En fait, c'est sur cette troisième réunion dans les jours après la victoire électorale de Rwagasore, c'est le résident Régnier qui, à un certain moment, a mis la liquidation du prince Rwagasore sur la table comme une solution au problème du pays, quoi. J'ai notamment trouvé dans les archives un téléx de la sûreté coloniale qui dit que, en fait, les femmes de tous ces administrateurs coloniaux avaient pris en panique quand ils ont appris ce qui a été décidé à cette réunion, et ils voulaient même à un certain moment alerter la presse. En tout cas, cette enquête a été tenue secrète parce que le but de cette enquête n'était pas de poursuivre les Belges qui étaient impliqués dans l'assassinat. Cette enquête avait l'unique but de convaincre le gouvernement de sauver l'assassin et ses complices.
À notre triste anniversaire, le meurtre de Christophe Niezabahizi, ce caméraman de la télévision nationale du Burundi, a été tué avec toute sa famille le 13 octobre 2015. Toujours pas de justice. 6 ans après, les proches demandent au président de la République d'exiger une enquête indépendante pour identifier les auteurs de ce massacre. Plus de détails avec Benny Axelakan.
C'était dans l'après-midi du 13 octobre 2015. Le journaliste caméraman à la radio-télévision nationale a été assassiné à son domicile avec toute sa famille. Depuis lors, les auteurs de ce crime n'ont jamais été inquiétés. Les proches de sa famille sont toujours en attente de la répression de ce crime.
Exactement, aujourd'hui, ça fait 6 ans jour pour jour que Christophe Niezabahizi et toute sa famille a été assassiné. Depuis 2015, la famille Niezabahizi attend de connaître la vérité sur cet assassinat. La justice burundaise traîne encore les pieds. Je ne sais pas si dans la famille Niezabahizi, ici, on peut attendre quelque chose de la justice.
Ces derniers demandent au gouvernement et aux instances de justice de traduire en justice les auteurs de ce crime parce que, disent-ils, ils sont connus de tous, le crime a été commis en pleine journée.
J'aimerais demander quelque chose au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, de prendre son courage à deux mains et de se désolidariser avec tous ces gens qui commettent des crimes et qui restent dans les institutions étatiques. Que ces gens soient arrêtés et qu'ils soient traduits devant la justice. La famille Christophe Niezabahizi attend jusqu'aujourd'hui dans la désolation totale.
Les organisations des professionnels des médias et de la société civile indépendante n'ont cessé de réclamer justice pour ce crime.
Inzamba. Début de la vaccination contre le Covid-19 à partir de la semaine prochaine au Burundi, annonce faite hier mardi par le ministre de la Santé, Thaddée Ndikumana, qui précise que la Chine a déjà donné au Burundi 500 000 doses, selon le ministre Ndikumana, le personnel de la santé. Ceux qui ont des maladies chroniques et les personnes âgées de plus de 60 ans seront prioritaires. On écoute le ministre de la Santé, Thaddée Ndikumana.
La vaccination pour ceux qui le désirent se fera au site de dépistage de Covid-19. personne ne pourra être vacciné sans qu'ils se fassent dépister pour le Covid. Ceux qui se font dépister, il y aura deux types de sorties. Celui qui est positif, il aura un traitement pour la prise en charge. Celui qui est négatif, s'il désire avoir le vaccin, il y aura un document de consentement parce que ça sera volontaire qu'il va signer et il va recevoir le vaccin. N'importe qui désirait avoir le vaccin, à part ces groupes cibles, pourra aussi bénéficier du vaccin volontairement. Le site de l'INSP sera aussi mis en profit parce que ceux qui viennent se faire dépister pour avoir le certificat COVID dans l'optique de voyager et pourront, s'ils le désirent aussi, bénéficier du vaccin sur place à l'INSP. Mais même pour ceux qui vont chercher les cartes de vaccination pour la fièvre jaune, ici au CMC, au niveau du programme IAG de vaccination, on va aussi y ériger un site de dépistage COVID, quitte à ce que ceux qui le veulent puissent aussi bénéficier de la vaccination contre le COVID-19.
Et dans le but de limiter la propagation de cette pandémie, ceux qui quittent la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays devront se faire dépister. S'ils sont testés négatifs, ils auront un certificat d'une validité d'un mois, précise le ministre Ndikumana. Après un mois, ils devront encore une fois se faire dépister. Satisfaction des Burundais après cette annonce du ministre de la Santé. Il recommande que cette vaccination soit obligatoire pour que le maximum de la population se fasse vacciner. On écoute ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Nzamba.
En tant que ministre de la Santé, il ne devrait pas dire que l'accès à ce vaccin est volontaire. Il devrait plutôt dire que les vaccins présentent des anomalies et pour cette cause, leur usage est interdit dans le pays. Tout le monde doit bénéficier l'accès à ce vaccin, selon moi, sans distinction aucune. Le gouvernement ne peut pas dire que le vaccin est volontaire. Cela veut dire que ce vaccin n'a pas d'intérêt à la population. Comme conséquence, la population n'y répondra pas massivement. Que ce vaccin soit obligatoire et non volontaire. Notre gouvernement ne s'intéresse pas à sa population. Il fait semblant d'être actif.
Il devait faire de cette vaccination un ordre pour tout le monde. Nous savons que le ministre de la Santé et ses collègues se sont déjà fait vacciner en cachette. Qu'ils arrêtent de s'appuyer sur le bas peuple.
Le ministre de l'Intérieur nous avait déjà découragés lorsqu'il avait dit que le gouvernement décline toute responsabilité quant aux conséquences négatives que causera ce vaccin de la COVID-19. Ça veut dire que la population va aussi suivre la position du gouvernement et ne se fera pas vacciner. C'est pourquoi c'est ce même gouvernement qui doit passer par tous les médias pour une nouvelle position, celle de promouvoir l'urgence et l'intérêt du vaccin contre la COVID-19.
De son côté, comme Konakuze salue le pas franchi par le Burundi, cet expert épidémiologiste demande au gouvernement de mettre en place une commission d'experts pour sensibiliser la population à se faire vacciner contre le COVID-19. Suivez comme Konakuze.
C'est un pas déjà louable, même si c'est une avancée très lente, mais aussi qui n'est pas sûre. Parce qu'il y a des contre-informations qui sont données par les différents ministères. Et puis, le comité de gestion de la crise de la COVID-19 n'est pas tellement impliqué. S'il est impliqué, il est relayé par des messages contradictoires au sein des membres, des dirigeants ou des membres du gouvernement. Mais c'est vrai que le progrès est là, parce que si on voit du refus de cette pandémie, et puis de sa reconnaissance officielle, et puis aussi du traitement par des voies qui ne sont pas scientifiquement reconnues, et jusqu'à ce qu'on atteigne cette phase de dépistage, de prise en charge, et de sensibilisation de la population sur des mesures de prévention, c'est déjà un pas franchi, même si le pas est venue de loin. Les autorités n'ont pas pris d'assaut cette crise de la pandémie de la COVID-19.
Criminalité pour terminer ce journal, encore sans vide. Un septuagénaire a été découvert dans la matinée de ce mercredi sur la colline Mitakataka dans la commune et province de Rubanza. La victime travaillait comme sentinelle. Des sacs de riz ont été également volés dans un hangar que cet homme gardait. Les détails avec Vanessa Mouhitek.
Les informations recueillies sur place à Mitakataka relèvent que la victime connue sous le nom de Bizimana Jean était une sentinelle d'un hangar de riz appartenant à Ndouiman Eric. Les mêmes informations disent que le dauphin a été retrouvé avec des blessures sur sa tête. Les auteurs de ce crime, qui n'ont pas été identifiés, ont défoncé les cadenas des portes de son hangar et du coffre volant seulement 35 kilos selon notre source sur place. Pourtant, le hangar était plein de sacs de riz. Bizimana Jean est un rescapé de 1993. Il vivait sur la commune Muyangi, en commune Wubanza, dans un site dopé. Les proches et les voisins témoignent d'un vient sage sans reproche. Du fait de la recrudescence des actes de malfaiteurs dans cette zone de Mitakataka, la population demande le renforcement de la sécurité. Cette sentinelle est la deuxième personne tuée à l'espace d'un mois sur cette colline. La police et l'administration confirment ces informations et indiquent qu'ils sont à la recherche des auteurs de ce crime.
Et voilà, c'est ici que se termine cette édition. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs de la radio Inzamba, Agathe Kakawe. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.